RCF.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 18-19 en Champagne-Ardenne. Au programme de cette émission ce soir, la réforme de l'assurance chômage. C'est la question d'économie que l'on va poser à Gérard-Marie-Henri, cette réforme qui est portée par la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, Madame Catherine Vautrin, que l'on connaît bien ici évidemment sur le territoire rémois. Un maire qui nous parle, Romain Bonhomme, l'édile de Ben-Noroy, sera en ligne avec nous juste avant le journal régional de 18h30. Après quoi, on parlera sport avec le parcours de la flamme olympique qui s'arrêtera du côté de Vitry-le-François. L'adjoint au sport de Vitry-le-François, Christian Gontier, sera notre invité dans cette émission. On parlera également du chemin des Saints Ardennais qui sera lancé demain avec Marie-Ange Turquet qui est déléguée au synode sur la synodalité pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Et puis on parlera des jeunes et de la musique en 240 secondes avec Suzanne Joss. Mais avant d'entamer le programme de ce soir, on va saluer nos stagiaires à la rédaction. À mes côtés, Médina Erich. Bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Qui nous annoncera la météo avec, on l'espère, un meilleur temps qu'aujourd'hui parce que ce n'était pas fameux, ni dans les Ardennes, ni dans la Marne, ni dans l'Aube, ni dans la Haute-Marne, où que l'on était en Champagne-Ardenne aujourd'hui, c'était très compliqué, on a subi la pluie. Inès est avec nous, Inès Elgaloussi, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Et vous nous parlerez de l'actualité étudiante à l'intérieur du journal régional. Nous, on commence cette émission par la chronique du jeudi, c'est la question d'économie avec Gérard-Marie-Henri, bonjour.
Bonjour Alexis.
La question d'économie consacrée aujourd'hui à la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme, on en parle, on la bouge dans un sens, puis on la bouge dans l'autre sens, on a l'impression qu'on l'étire, qu'on la rapproche. Si l'on fait une photographie, Gérard-Marie-Henri, on en est où de cette assurance chômage?
Alors, on en est l'idée qu'on aura un décret au mois de juillet, qu'au mois de décembre, ça devrait démarrer. Et cette réforme, en fait, c'est une réforme qui va dans la bonne direction, même si elle y va, encore une fois, à petits pas, comme on a l'habitude de le faire en France.
On va en parler dans quelques instants. Juste, vous dites qu'il y aura un décret au mois de juillet, comme par hasard, au moment où les Français commencent à partir en vacances. Est-ce que le timing est bien choisi, Gérard-Marie-Henri?
Un petit peu, puisque ce qu'on veut, c'est éviter les vagues. Hein. Vous savez que les organisations syndicales, en particulier la CGT, sont tout à fait opposés à cette réforme en disant que ça va encore pénaliser les pauvres, enfin tout un scénario catastrophe en disant que c'est une réforme à l'allemande. Parce que les Allemands, effectivement, ont fait une réforme il y a maintenant pratiquement 20 ans, une réforme qui s'appelait la réforme Hartz, du nom du responsable des ressources humaines chez Volkswagen, que le chancelier allemand de l'époque, qui était avant Merkel, avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de chômage des jeunes. Et M. Hartz avait répondu, il faut quand même d'un côté que les allocations de chômage soient un peu moins généreuses.
Eh bien, alors, si vous voulez bien, Gérard-Marie-Henri, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder ce qu'il va se passer en France pour cette réforme de l'assurance chômage. Et puis, on comparera ce qu'il s'est fait en Allemagne il y a une vingtaine d'années, voir finalement comment se place la France, si ça vous va comme ça.
Tout à fait bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce que l'on prévoit à partir du mois de juillet et qui pourrait donc davantage entrer en vigueur au mois de décembre prochain?
Alors, première chose, c'est qu'on va allonger un peu la période pendant laquelle il faut travailler pour avoir le droit pour la première fois à des allocations chômage.
On va passer à combien de temps?
Alors, il va falloir travailler sur une période de 20 mois, il va falloir avoir travaillé 8 mois. Donc si vous n'avez pas travaillé 8 mois, bien, vous n'êtes pas déclaré chômeur indemnisé. Et donc évidemment, ça c'est un peu plus dur que la situation précédente puisqu'il suffisait d'avoir travaillé 6 mois sur les 24. Là maintenant c'est 8 sur les 20. Donc on va avoir des gens qui ont des contrats à court terme, des CDD courts qui vont avoir du mal peut-être à faire ces 8 mois sur les 20. Bon, Deuxième changement important, et c'est peut-être celui qui va être, à mon avis, le plus important, c'est la durée d'indemnisation moyenne est réduite. Alors, on a des durées d'indemnisation qui sont spécifiques pour les vieux, pour les gens qui ont plus de 50 ans, etc. Mais pour les gens qui sont en dessous de cette barre et qui viennent de 16, on va dire, à 50 ans, on avait une durée d'indemnisation qui était quand même assez généreuse en France, puisque c'était 18 mois. Et là, maintenant, ça ne va plus être que 15 mois.
Donc, on va dire que c'est les trois grands axes qui font que ça va changer dans cette réforme assurance chômage.
Tout à fait. On réduit donc, d'une part, la durée pendant laquelle on peut toucher une indemnisation chômage et on allonge la période pendant laquelle il faut avoir travaillé pour commencer à toucher cette indemnité.
On aura l'occasion peut-être de voir d'autres points après, mais déjà sur ces axes précis que vous venez de présenter, Gérard-Marie-Henri, comment on se situe par rapport à la réforme qui a eu lieu en Allemagne, on le rappelle, il y a 20 ans?
Oui, alors on est encore un peu court, hein. Les Allemands ont été beaucoup plus sévères, beaucoup plus brutaux. C'est d'ailleurs ce qui a fait que Mme Merkel a gagné les élections. Le Parti Socialiste Allemand, enfin le PSD, a perdu les élections parce que les gens sont descendus dans la rue en disant « c'est vraiment pas beau cette réforme Hartz ». Mais en fait, elle a gardé évidemment les réformes. La réforme est toujours en place en 2024. Donc en Allemagne, il faut avoir travaillé 12 mois sur les 24 mois. Donc déjà, on n'est pas à 10
mois. Au moins
une
année.
Il faut avoir travaillé une année. Ça, c'est déjà un petit peu différent. Deuxième chose, c'est qu'en Allemagne, depuis les années 2005, on a une indemnisation qui dure seulement un an, 12 mois. Nous, on va passer à 15. Eux, ils sont à 12 depuis une vingtaine d'années. Et donc, ça a des effets sur le comportement des gens. Je sais que si j'arrive au chômage, il faut que je me dépêche un petit peu de chercher. Je ne vais pas dire je pars un peu, faire le tour de France. On verra quand je reviendrai.
On ne prend pas une année sabbatique. On ne reste pas dans le canapé devant la télévision. Voilà, on y va, on cherche un emploi.
On cherche. Alors, avec les aménagements qu'on a prévus pour les gens qui ont un certain âge. Donc, ça existe aussi en Allemagne. En Allemagne, si vous avez plus de 50 ans, vous avez 15 mois d'indemnité. Plus de 55 ans, vous avez 18 mois d'indemnité. Plus de 58 ans, vous avez 24 mois d'indemnité. Mais en France, on restera quand même, nous, à 27 mois pour les personnes âgées. La première tranche a été supprimée, mais on a encore une période. Bon, 27 mois, c'est trop long, évidemment, puisque quelqu'un qui a 55 ans et qui est 27 mois au chômage, évidemment, il ne va pas retrouver d'emploi parce que l'employeur va dire que c'est quelqu'un qui est complètement rouillé. Donc, ce n'est pas forcément un cadeau à faire à des personnes de cet âge-là.
Eh bien, en tout cas, on vous remercie, Gérard-Marie Henry, de nous éclairer sur ces différentes réformes de l'assurance chômage. Et justement, on parle de ce modèle allemand que l'on sent beaucoup plus strict. Et encore une fois, on le répète, c'est sur des mesures qui ont été prises il y a 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'on continue de regarder chez nos voisins, est-ce que c'est en projet de davantage durcir aussi leur assurance chômage? Est-ce qu'ils en sont contents du système qu'ils ont mis en place et qu'ils veulent le conserver comme ça?
Oui, en fait, il n'y a plus besoin vraiment de faire des efforts. On a déjà un système qui marche pas mal. En fait, si on devient plus sévère, ce qui est le cas des États-Unis. Aux États-Unis, c'est seulement 6 mois d'indemnité chômage. Donc, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus strict encore. Ben, on s'aperçoit que les gens, enfin ceux qui ont des petits jobs, des jobs pas sympas, etc., ben, ils préfèrent quitter le marché du travail en trouvant un médecin qui leur déclare qu'ils sont un peu invalides. Et donc, ils vont avoir leur pension d'invalidité qui va substituer à l'allocation chômage. Et donc, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que depuis maintenant quelques années, le nombre d'Américains qui sont en âge de travailler et qui travaillent est inférieur au nombre de Français qui sont en âge de travailler et qui travaillent. Nous, on est à peu près à un taux d'emploi de 67% sur 100 personnes en âge de travailler, c'est-à-dire de 16 à 65 ans. Il y en a 67 qui travaillent en France, 75 en Allemagne et un peu plus de 60 seulement aux États-Unis. Donc, ils ont peu de chômeurs, mais ils ont plein de gens qui ont quitté le marché du travail. Donc, ça veut dire que quand on durcit les conditions d'indemnisation, il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas décrocher complètement les gens qui vont aller à l'extérieur du marché du travail en se débrouillant pour avoir une pension d'invalidité.
Gérard-Marie Henry, vous êtes chroniqueur, vous avez un regard sur la vie économique et c'est ce que vous faites en nous présentant cette assurance chômage. Vous avez vos propres avis, bien évidemment. On regarde quand même ce qu'il se passe du côté des camarades de la CGT qui, eux, évidemment, sont contre cette assurance chômage, en tout cas contre cette réforme.
Tout à fait, mais on peut les comprendre. Elle va tomber, cette réforme de l'assurance chômage, non pas sur les gens qui sont très qualifiés, qui de toute façon n'ont pas besoin d'une période très longue pour retrouver un job, mais elle va tomber bien évidemment sur des jeunes qui ont peu de qualifications, sur des jeunes qui démarrent. Elle va évidemment être pas bien ressentie par ces personnes qui sont déjà fragiles. Mais c'est la bonne solution. À terme, ça va amener ces gens à rester plus sur le marché du travail, donc être plus employables, donc permettre, ce que dit le Premier ministre, M. Attal, d'avoir assez rapidement déjà 90 000 personnes qui vont revenir sur le marché du travail.
Et on ne peut pas faire une réforme au cas par cas, selon des tranches d'âge, etc. Ça serait trop compliqué à mettre en place.
Trop compliqué, mais effectivement, il va falloir que les employeurs y mettent un petit peu du leur. Et c'est ce qui est intéressant dans cette réforme que présente Mme Vautrin, c'est qu'on a prévu un truc qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est un bonus emploi senior qui devrait, on va inciter les seniors à reprendre un job. Encore une fois, c'est des gens qui sont pas très qualifiés, vieux. Et ils vont peut-être être obligés d'accepter un emploi qui leur rémunère moins. Eh bien là, on va dire, vous êtes payé par l'entreprise un peu moins que ce que vous aviez dans votre job précédent. Mais on va vous faire un bonus, un complément qui va être versé par l'assurance chômage et qui va permettre de compenser pour ces vieux salariés jusqu'à 3000 euros la différence qu'ils ont avec leur salaire précédent.
Alors Jean-Marie Henry, on se dit bonne idée, mais peut-être fausse bonne idée, parce que peut-être que c'est un bonus qui ne sera pas pris en compte dans le calcul de la retraite, que ça ne sera pas dans les 20 dernières années. Donc il y a certainement encore des gens qui vont se rebeller et dire, bah, écoutez,
oui,
finalement...
Oui, mais bonne remarque, je vérifierai cette histoire de est-ce qu'on le prend en compte pour la retraite. C'est une bonne remarque à laquelle je n'avais pas songé. Mais en fait, vous voyez quand même que c'est l'idée de dire, voilà, restez sur le marché du travail. L'entreprise considère que vous êtes un peu moins performant, donc elle vous paye un peu moins que ce que vous aviez précédemment. Bah, on va mettre la différence pour que vous ayez un niveau de revenu qui soit identique. Et donc, restez sur le marché du travail, allez jusqu'au bout de vos 63, 64 ans et ça serait très bien pour tout le monde et très bien pour vous.
On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui de cette réforme de l'assurance chômage, Gérard-Marie Henry. Nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler en début d'année. On parle en saison radio maintenant, évidemment, certainement aux alentours du mois de septembre 2024 et puis du mois de décembre également lorsque ça rentrera en vigueur. On vous remercie, Gérard-Marie Henry. À bientôt.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Un maire que l'on a appris à connaître cette année sur les ondes de RCF nous parle ce jeudi. Avec qui êtes-vous, Jean-Pierre ?
Et notre maire aujourd'hui est Romain Bonhomme, il est maire de Benne-Noroy. Romain Bonhomme, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion déjà de vous entendre dans cette émission. Vous êtes maire de la commune, je crois, depuis 2020. Il faut dire aussi que ce rôle du maire, on peut déjà le qualifier de passionnant. Déjà, valoriser cette mission qui est assez exceptionnelle.
Oui, c'est. Je dis toujours que devenir maire, c'est trois ambitions et puis c'est trois choses qui nous font avancer au quotidien. La première chose, c'est la motivation de la chose publique, c'est de pouvoir satisfaire un maximum l'intérêt général et de ne surtout pas additionner, on va dire, les intérêts privés ou les intérêts particuliers. Ça, c'est le premier élément, c'est vraiment être motivé par le collectif. Deuxièmement, c'est l'écoute. On est effectivement, je disais le président de l'Association des maires de France, David Lissner, un habitant au milieu des habitants. Donc on passe beaucoup de temps à écouter nos concitoyens. Et puis on est comme tous les autres citoyens du village. Il nous arrive de fréquenter les commerces, de se balader dans la rue et on est souvent effectivement en discussion avec nos habitants. Et puis le dernier élément, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui se voit et c'est ce qui fait qu'on fait avancer nos territoires, c'est l'action. Donc il faut avoir des idées et puis il faut être en capacité de pouvoir les mettre en action. Et c'est vrai que dans des communes comme les nôtres, d'une taille relativement modeste, l'action est souvent très difficile et il faut déployer des trésors d'énergie pour faire aboutir nos projets.
Et dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes de notre pays n'ont pas toujours d'interlocuteurs, savent pas à qui s'adresser. Mais le maire, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Et donc, vous êtes très souvent sollicité. On est content de voir quelqu'un en chair et en os qui puisse répondre à une ou deux questions.
Oui, alors on est le premier maillon, on va dire, de la République dans l'écoute, dans la médiation, dans le contact avec les habitants. Moi, ce qui me frappe le plus souvent, c'est le besoin des citoyens d'essayer de comprendre. On les sent parfois, et je trouve de plus en plus dans cette société de l'instantané et du numérique, et pour ne pas dire du virtuel, vraiment dans un besoin d'incarner, hein, vous l'avez dit, de voir quelqu'un physiquement. Mais aussi, moi ce qui me frappe, c'est l'impression qu'ils ont besoin qu'on leur redonne le cap pour que on puisse envisager collectivement un destin sur tout un tas de questions, hein, que ce soit alors en premier lieu c'est souvent sur le logement, hein, le premier rendez-vous avec le maire c'est souvent, en tout cas sur mon territoire, une demande de logement, et aujourd'hui effectivement c'est assez compliqué de trouver des solutions immédiates sur ces questions qui prennent beaucoup de temps. Et puis après, c'est des sujets de la vie quotidienne, hein, que ce soit l'état civil, que ce soit l'école, que ce soit le commerce. Enfin voilà, c'est toutes les questions de la vie familiale. Et c'est ce qui fait, je pense, notre proximité, c'est qu'on est en proximité physique des gens, mais aussi on est en proximité de leur quotidien. On est dans la vie des familles.
C'est l'occasion, Romain Bonhomme, de rappeler combien il y a d'habitants à Benne-Noroy, de représenter très rapidement la commune. On l'a déjà fait dans des précédentes émissions, mais c'est tout de même bien. Nos amis ardennais connaissent pas forcément toutes les communes marnaises, et les gens de Trince non plus d'ailleurs. Benoît, combien d'habitants, Romain Bonhomme, aujourd'hui?
Alors Benoît, c'est environ 1100 habitants. On est à l'est de l'agglomération rémoise, on est à peu près à 17 km. Et on est un village de plaine qui se trouve entre les monts de Champagne et puis les coteaux du mont de Béru et de Nogent-l'Abbesse.
Alors il faut dire que bon, le village est très, on en a déjà parlé, très dynamique. Il y a des tas d'associations, des gens qui s'impliquent. On l'avait vu au moment de Noël. D'ailleurs, il y a eu récemment une fête, un week-end. On en a parlé il y a quelques jours. Mais il va y avoir aussi une exposition qui va démarrer à l'église. D'ailleurs, tout près d'ailleurs de la mairie d'ailleurs.
Oui, alors c'est ce qui fait vivre aussi le village. Hein. Les habitants sont à Benoît, ont cet ADN d'avoir une tradition d'être bénévole et très engagé dans le monde associatif. Donc on a un monde associatif qui vit très bien. On a fait une fête des voisins un peu anticipée le week-end dernier qui a rassemblé plus de 300 personnes, qui est relativement intéressant. Et à partir du 7 juin, donc le vendredi 7 juin au soir, on a un vernissage pour lancer une exposition photo de notre club photo qui a lieu donc ce week-end du 8 et 9 juin et donc qui aura lieu dans notre église Saint-Laurent au cœur du village. Et puis comme le 9 juin est une date démocratique très importante, ce sera aussi l'occasion de lier l'agréable et l'utile, savoir passer aux urnes pour les élections européennes le matin ou en journée et pouvoir ensuite participer et voir cette très belle exposition photo.
Il y a eu énormément d'actions, on ne peut pas les énumérer toutes, de réalisations que vous avez faites, des projets qui sont toujours en cours, parce qu'une commune, 1100 habitants, c'est quand même beaucoup. Vous savez, dans l'émission du maire, on reçoit des maires de communes, parfois de 50, 60, 70 habitants, mais 1100 habitants, c'est déjà, je veux dire, le bourg, c'est déjà quand même important. Hein.
Oui, alors, peu importe la taille, hein, vous savez, il y a 80% du pays... est en ruralité, alors ça représente peut-être que 20% de la population, mais c'est de nombreuses communes qu'il faut administrer, qu'il faut gérer, qu'il faut faire avancer, pas forcément avec les moyens techniques administratifs de grosses collectivités. Et pour le coup, oui, effectivement, alors, encore une fois, on parle souvent du maire, mais c'est surtout l'équipe du conseil municipal, l'équipe collective qui apporte sa pierre à l'édifice pour faire avancer tous ces projets.
On peut resituer un ou deux projets en cours ou qui sont en train d'être réalisés?
Oui, alors on est sur plusieurs sujets. Alors là, actuellement, on vient juste de lancer donc des travaux de requalification de la rue qui dessert notre école, donc la rue Saint-Rémy, dont l'objectif est d'apaiser les circulations et de sécuriser les accès à notre pôle scolaire. C'est un projet qui est conduit avec le Grand Reims. Et puis, un autre projet sur lequel aujourd'hui on est en train de travailler ardemment et sur le long terme à la déconstruction, à la dépollution d'une friche industrielle dont l'objectif sera de redonner vie à ce site pour accueillir un pôle commercial et de services, on l'espère, d'ici 2027-2028. Donc voilà, c'est... L'équipe du conseil municipal, elle est tantôt urbanisme, tantôt ingénieur, tantôt dans l'ensemble des paramètres professionnels qui font que on a besoin de ces compétences pour faire aboutir nos projets qui sont de plus en plus complexes.
Merci Romain Bonhomme, maire de Benoît, d'avoir été avec nous. On aura l'occasion, j'imagine, d'ici le mois de juillet, de nous retrouver au moins une fois pour revoir un petit peu ce bilan annuel et puis tous ces projets qui, j'allais dire, bourgeonnent de partout. Enfin, c'est exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF. Au revoir.
18h30 sur les ondes de RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce jeudi 30 mai à l'occasion du 170e anniversaire du poète ardennais Arthur Rimbaud. Il est désormais possible de discuter avec lui à la Maison de l'Ailleurs à Charleville-Mézières. Présentation de son jumeau numérique. La 75e édition Paris-Alsace Crédit Mutuel traverse le territoire marnais depuis hier. Retour sur l'étape à Châlons-en-Champagne de ce jeudi matin.
RCF, l'actualité régionale. Alexis Claudretz.
Les syndicats avaient appelé à une journée morte des pharmaciens ce jeudi à l'échelle nationale pour protester contre une rémunération décevante, la pénurie de médicaments, le risque de financiarisation parmi de nombreux autres motifs. Le mouvement a été globalement très bien suivi par les officines en Champagne-Ardenne. Ils étaient environ 500 pharmaciens ce matin devant la préfecture de Châlons-en-Champagne. Vivez l'expérience de l'intelligence artificielle en découvrant et conversant avec la nouvelle animation de la Maison des Ailleurs, le jumeau numérique d'Arthur Rimbaud. 2024 étant l'année du 170e anniversaire du poète natif de Charleville-Mézières, la ville a décidé de frapper fort avec une série d'événements dédiés au poète Carolo Masserien. Tout au long de l'année, après un billet collector à son effigie, les visiteurs pourront désormais découvrir une innovation de taille, un jumeau numérique d'Arthur Rimbaud, créé par l'intelligence artificielle, avec lequel les curieux pourront discuter. Une animation expérimentale de médiation culturelle, comme le souligne la directrice des musées de Charleville-Mézières, Carole Marquet-Morel, au micro de RCF France-Ardenne.
Pour nous, c'est aussi un instrument de conquête de public, de démocratisation, d'accès à la culture, en se disant, est-ce que si on prend les nouvelles technologies, est-ce que c'est une piste valable? Est-ce que ça nous permet d'aller faire venir des gens qui iront peut-être un musée littéraire ou voilà, alors qu'on peut avoir une chouette expérience en famille? Nous, on l'a conçu vraiment comme ça, pour toucher un public familial qui n'est pas spécialiste de Rimbaud, qui va pouvoir poser des questions, dialoguer, surtout avec lui, rebondir. Et donc, nous, on veut évaluer ça. Donc, on va mettre en place un dispositif d'évaluation pour se dire, voilà, on a une expérience. L'expérience, elle est tant sur le média qu'on utilise, le support de médiation culturelle, une intelligence artificielle. C'est quelque chose qui n'a... Bon, ça a été fait pour Vincent Van Gogh, et puis voilà, en l'état actuel des choses, c'est le seul exemple que l'on connaisse. Et puis aussi de se dire, est-ce que finalement ce média plaît au public? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Donc, tant dans les contenus que dans la forme que ça donne, on a envie de mener à bien cette expérience.
Quant à Boris Ravignon, il explique l'obsession de la ville à faire connaître la vie et la poésie d'Arthur Rimbaud au plus grand nombre. Ce jumeau numérique a été imaginé et proposé par la société Jumbomana, start-up strasbourgeoise, spécialisée en IA générative interactive, bien décidée à trouver une personnalité du Grand Est pour rayonner au-delà de Paris ou de Los Angeles sur son territoire. Un investissement de la ville pour l'acquérir qui se compte surtout en centaines d'heures de travail pour traduire et transmettre les informations à la société, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon.
On a une très grande chance, c'est qu'on est connu à travers le monde comme étant sa ville natale, et en même temps, ça nous crée, je crois vraiment, un devoir, une mission, qui est celui de faire connaître sa poésie. C'est pour ça qu'on l'écrit sur les murs de la ville, avec des fresques. C'est pour ça qu'on a cette activité du musée qui vise à faire venir le plus de gens possible, parce qu'un musée littéraire, quand on est en vacances dans le coin, c'est pas forcément l'endroit où on a envie d'aller passer la journée. Là, justement, on crée des activités, des pôles d'attraction qui permettent aux gens de venir, finalement, peut-être découvrir ça, et qui, en repartant, vont s'intéresser à sa biographie, s'intéresser à sa poésie. Voilà, on est dans une politique d'un musée attractif, mais qui doit surtout aboutir à faire connaître la poésie, c'est ça notre obsession à nous. On voit bien, il y a certaines approches où il dit la poésie c'est plus mon histoire, moi je suis là, je suis un voyageur, je suis un commerçant, bon, donc ça il a, je crois, bien intégré. Il va falloir continuer à le nourrir. Il y a une part de risque parce que l'intelligence artificielle va combiner ce qu'on lui donne, et ce qu'on lui donne, c'est pas comme ChatGPT où ils vont sur internet chercher tout un tas de choses. Là, on la nourrit des textes, ça colle. Correspondance, j'imagine, à sa famille, ses textes poétiques, de documents entre guillemets officiels, donc qui sont attestés. Je pense que compte tenu du volume de choses qu'on lui donne, l'intelligence artificielle peut mettre en relation, peut mettre en rapport des choses intéressantes qui permettent, là encore, aux gens qui vont venir le rencontrer, de peut-être c'est de le comprendre, lever un petit coin du mystère, mais ça restera un très grand mystère.
L'expérimentation durera 8 mois et en cas de succès auprès des visiteurs, le dispositif pourrait être pérennisé tout en étant amélioré. Un véritable défi donc pour la société créatrice comme pour la municipalité de faire connaître Rimbaud autrement, même aux moins initiés. Une innovation impressionnante et intimidante à découvrir et expérimenter à la Maison des Ailleurs de Charleville-Mézières. Un nouveau service pour les étudiants rémois a été inauguré en début de semaine. Inès Elgaloussi.
L'Université de Reims-Champagne-Ardenne, en partenariat avec le Crous et la Ville de Reims, ont mis en place un service d'écoute nommé NatLine. L'association NatLine a développé ce service d'écoute dans le but de mener des actions pour améliorer la santé mentale des jeunes. Ce service est tenu par des étudiants bénévoles qui répondront aux appels et aux chats la nuit de 20h30 à 2h30. Le service Natline est ouvert à l'ensemble des étudiants de Reims qui pourront se confier aux bénévoles quel que soit leur domaine d'études en appelant le 03 59 61 55 82. Les étudiants auront la possibilité d'aborder tout type de sujets tels que la solitude, les études, la précarité, le stress ou bien encore les conflits. Ce service est anonyme et totalement gratuit. L'association est toujours en quête de nouveaux bénévoles, alors n'hésitez pas à les rejoindre pour aider les étudiants dans le besoin.
Merci Inès. Demain, on vous retrouve à la présentation du journal et de l'intégralité de ce magazine régional. Dans les Ardennes, deux clubs de football fusionnent, Prix-les-Mézières et l'Olympique de Charleville, avec pour objectif de créer un grand club de foot qui évoluera en National 3. Une trentaine d'équipes de tous niveaux composeront le club. Avec environ 500 licenciés, le budget tournera aux alentours des 600 000 euros. Une course mythique née en 1926, deux épreuves, jusqu'à 450 km parcourus et plus de 50 heures d'efforts intenses, l'épreuve de marche athlétique de fond Paris-Alsace Crédit Mutuel est la plus ancienne et plus longue course d'endurance au monde. Retour sur l'étape de Chalon avec Lilou Marjolais.
Jeudi 30 mai, 18 athlètes ont fait étape à Chalon-en-Champagne après 120 km depuis Neuilly-sur-Marne avant de rejoindre la ville de Colmar. La course se divise en deux épreuves. La course Cabu, constituée de 6 étapes, qui ponctue les 250 km de course, et la course Mythique, qui fait 450 km. Selon Dominique Play, président de l'association Marche Mythique Organisation, qui organise la course depuis 2015, des incertitudes persistent quant aux conditions météo et à la forme physique des marcheurs.
Il y a toujours des incertitudes, hein. Et puis il y a des marcheurs qui se lancent, et puis au bout de 50-60 km, ils s'aperçoivent que ils ont mal, ils sont blessés. Mais globalement, là, on a pratiquement tout le monde qui est au départ. C'est vraiment une joie d'être ici à Chalon, d'organiser ce départ de la Cabu, que l'on a voulu renommer pour, justement, en mémoire du dessinateur Cabu, originaire d'ici. De voir tous ces gamins, tous ces bambins, c'est vraiment une émotion forte après la pluie de la nuit qui a été vraiment... pourri, on peut dire, mais là, on a presque un petit rayon de soleil. En venant, on a vu le soleil se lever. Et puis toute cette jeunesse, ça nous dit que finalement, il faut continuer à se battre pour que les épreuves existent.
Dépassement de soi, endurance et mental en béton armé, voici les trois fondamentaux permettant aux marcheurs de longue distance de terminer cette folle épreuve. Depuis le 28 mai et jusqu'au 1er juin, les athlètes traversent l'est de la France accompagnés de leurs équipes et de leurs supporters. Comme un Everest pour les marcheurs de longue distance, la 75e édition de la course Paris-Alsace repart demain matin à Neufchâteau et fera étape le soir à Gironcourt-sur-Vraine.
Un reportage de Lilou Marjolais, stagiaire à la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Tout de suite, place à la météo avec notre autre stagiaire à la rédaction de RCF Reims-Ardennes, cette fois Médina Erich. Bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi? On espère de meilleures nouvelles qu'aujourd'hui.
Eh bien ce soir dans les Ardennes, il fera 11 degrés à Charleville-Mézières et 12 degrés à Rethel, accompagné d'un ciel nuageux. Dans la Marne et dans l'Aube, les températures tourneront également autour des 11 degrés et la pluie sera au rendez-vous. En Haute-Marne, à Saint-Dizier, il fera 12 degrés avec quelques nuages. Demain, la pluie et les nuages vous accompagneront tout au long de votre journée sur l'ensemble des départements de la région. Le matin, les températures seront douces dans les Ardennes, où il fera 12 degrés à Vouziers et 13 degrés à Rethel. Dans la Marne, il fera 11 degrés à Épernay et Sézanne, ainsi que 12 degrés à Reims. Les températures seront similaires à Saint-Dizier en Haute-Marne, avec un léger 12 degrés. Dans l'Aube, les températures seront autour des 11 degrés sur l'ensemble du département. L'après-midi, dans les Ardennes, il fera 16 degrés à Sézanne, ainsi que 17 degrés à Charleville-Mézières, avec quelques éclaircies. Dans la Marne, les températures seront agréables, allant de 16 degrés à Reims, 17 degrés à Sézanne, jusqu'à 18 degrés à Châlons-en-Champagne, où le soleil pointera le bout de son nez. En Haute-Marne et dans l'Aube, il fera 16 degrés sur l'ensemble des départements, où quelques éclaircies seront présentes. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à toutes les Lise Marie et en attendant, je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Médina, très bonne soirée à vous aussi. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Et on retrouve Suzanne pour une nouvelle chronique en 240 secondes, cette semaine consacrée aujourd'hui à la musique.
Bonjour à tous, bienvenue sur 240 secondes, l'émission qui met la jeunesse à l'honneur en 4 minutes. En mai, faisons ce qu'il nous plaît, alors pourquoi pas parler de musique ? Platon disait que la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Et en effet, qui n'a pas déjà laissé son esprit rêvasser, la tête collée à la vitre du train, de la musique dans ses écouteurs emmêlés ? Qui n'a pas déjà eu un coup de cœur immédiat pour une musique, quitte à l'écouter en boucle des jours durant ? Qui n'a jamais chanté à tue-tête sa chanson préférée au volant de sa voiture ? Eh bien moi, car je n'ai pas le permis, mais c'est un autre sujet. La musique accompagne les adolescents dans leur quotidien, que ce soit à leur domicile, à l'école, dans l'espace public et même la nuit. Elle est omniprésente dans la vie des jeunes, suit leurs humeurs et construit parfois un bout de leur personnalité. Comment les jeunes d'aujourd'hui consomment-ils la musique ? Quel type de musique écoutent-ils le plus ? Et à quelle fréquence ? J'ai 240 secondes pour évoquer ces questions avec vous, alors si vous êtes prêts, top chrono ! Commençons par un chiffre. 70% des jeunes écoutent de la musique entre 1h et 5h par jour. Et en France, c'est le rap, le style musical le plus populaire. Il s'impose sur la scène musicale et plaît énormément aux jeunes. D'ailleurs, sur les 10 albums les plus vendus en France en 2023, 8 étaient des albums de rap. Cela prouve à quel point le rap est un style musical qui surpasse les autres, car il fait le plus de ventes et le plus d'écoutes. C'est sur YouTube que les jeunes écoutent le plus de musique, notamment car ils peuvent y visionner des clips. Spotify et Deezer arrivent en deuxième et en troisième position. D'ailleurs, 63% des 12-18 ans déclarent n'avoir jamais acheté de CD et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Mais phénomène étonnant, là où les ventes de CD physiques sont en chute libre, le vinyle, lui, fait son grand retour. Un tiers des acheteurs de vinyle ont moins de 30 ans et à l'heure de la dématérialisation, le vinyle revient. Chaque année, il séduit de plus en plus de consommateurs. En même temps, le vinyle est un bel objet, c'est un objet noble qui plaît aux collectionneurs, il offre une belle qualité de son et la musique crépite et cela donne un effet vintage très tendance. Le retour du vinyle devient une tendance mondiale parce que pour la première fois depuis 1987, il y a eu plus de disques vinyle vendus aux États-Unis en 2022 que de CD. C'est bien la preuve que l'engouement pour ce format redevient très à la mode. De toute façon, peu importe la manière d'écouter de la musique, on peut dire que la passion du son ne date pas d'hier, puisque des flûtes fabriquées dans de l'os, vieilles de 40 000 ans, avaient été exhumées lors de fouilles archéologiques. L'homme a un attrait naturel pour le son, et en même temps, il a raison, puisque écouter de la musique, c'est bon pour la santé, et une chercheuse de l'Institut de recherche Rothman de Toronto a découvert qu'écouter de la musique libère de la dopamine et permet aussi de relâcher la pression. Alors, écoutez de la musique, profitez du retour du soleil pour créer vos meilleures playlists. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour passer à nouveau 240 secondes ensemble sur RCF.
Sans transition, ou presque, Vitry-le-François sera la première ville de la Marne traversée par la flamme olympique le dimanche 30 juin prochain, dès 9h30 du centre aquatique La Salamandre, inauguré il y a un an par le président du CIO, Christian Gontier, adjoint au sport de la ville de Vitry-le-François.
Bonjour Christian.
Bonjour Gérald, merci de cette invitation. Et effectivement, il va se passer quelque chose d'historique, puisque statistiquement, c'est tous les 100 ans qu'on peut voir passer la flamme dans sa commune. Donc on en aura la chance le 30 juin prochain de l'avoir traversée Vitry-le-François, première ville de la Marne traversée par la flamme olympique.
Première ville, elle reste longtemps ?
Elle va rester à peu près entre 30 et 40 minutes sur le parcours. C'est un parcours de 3 km qui va démarrer dès 9h du matin du centre aquatique et qui va arriver place d'Armes.
Est-ce que les habitants ou toutes les personnes qui le souhaitent pourront être sur les bords des rues de Vitry pour encourager le relayeur ?
Bien entendu, je les invite à venir très nombreux. Le parcours sera bien sûr sécurisé, mais le public pourra être aux abords du parcours et pourra voir la flamme passer et les relayeurs. Nous souhaitons qu'il y ait des relayeurs Vitria parmi les 15 qui passeront de centre aquatique à Place d'Armes.
Vous souhaitez parce que vous ne les connaissez pas encore ?
Non, pas encore, puisque ça, c'est un tirage au sort. C'est des candidatures qui se font au niveau de l'organisation, qui est Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques, qui, eux, gèrent les candidats et les validations des candidats qui participeront aux relayeurs.
Est-ce que vous connaissez par cœur la liste des rues qui seront empruntées?
Ça partira donc du centre aquatique pour passer Quai des Fontaines, qui sera suivi de la place de la Marne, qui est le rond-point sur la route de Paris, avenue du Quai Saint-Germain, rue des Hauts-Pas, qui tournera rue du Petit-Denier, qui remontera la rue à contresens, rue des Sœurs, rue des Minimes, qui rejoindra la rue Saint-Abdon, et passera par la place du Maréchal Leclerc, donc la porte du pont, place Maréchal de Lattre de Tassigny, rue de la Glacière, place de l'Hôtel de Ville, place Carnot et boulevard Carnot côté ouest, et boulevard François 1er qui remontera jusqu'à la place Giraud. Et à la place Giraud, on reprendra la rue Aristide-Briand pour arriver à la place d'Armes côté Dominé de Verzé.
Alors ça, c'est le parcours. Et est-ce que les relayeurs seront tout seuls sur ce parcours?
Ils seront entourés de, je crois savoir, de deux coureurs de sécurité qui vont les entourer pour les protéger. Alors ils ont un nom, mais je ne me rappelle plus.
Ils courent simplement la flamme à la main.
Ils courent la flamme à la main et ils se relaient. Il y aura 15 relayeurs sur ce parcours de 3 km, donc ils feront chacun 200 mètres.
Course obligatoire?
Non. Non, non, le passage est obligatoire. Non, non, ça peut se faire en marchant, en trottinant, en courant, mais ça sera, c'est pas non plus un sprint, hein. Il faut qu'il ait ce moment festif et que tout le monde puisse apercevoir la flamme d'où il est.
Et avant et après les relayeurs, il se passe quelque chose?
Il y aura des animations. Nous n'avons pas souhaité avoir des animations sur le parcours puisque ça dure 30 minutes, donc c'est très peu pour mobiliser des associations sur le parcours. Il y aura le cercle des 17 au départ. Il y aura une déambulation musicale sur le parcours et arrivé place d'Armes, il y aura un village qu'on a nommé Vitry se prête au jeu.
Alors un village avec des associations sportives?
Essentiellement sportives, puisque c'est ce qu'on faisait auparavant, qu'on appelait sport en fête au mois de juin, mais qu'on a voulu décaler sur cet événement pour qu'on puisse continuer les festivités après que le passage de la flamme soit fait. Il y a 14 associations sportives sur la place et un stand où dedans il y aura le conseil départemental, le comité départemental olympique et sportif, et il y aura le réseau sport santé aussi sur le stand. Donc il y aura des ateliers de proposer aux familles. Donc, puisque c'est intergénérationnel, on souhaite que tout le monde participe, les parents avec leurs enfants, sur ces ateliers.
Et alors, concernant les associations, quelles sont-elles?
Alors, les associations, au nom de 14, il y aura les Slider Tribu, qui c'est une activité roller, le tennis club Vitria, les archers Vitria, le cercle d'escrime, le volleyball Vitria, la champenoise, c'est de la gymnastique, le judo club Vitria, le Kwan-Kindo qui est un art martial, il y aura du yoga, Vitry Danse sera aussi de la fête, et le handball. Il y aura le centre social et culturel, la maison pour tous. Le conseil municipal des enfants tiendra également un stand, en compagnie de ma collègue Christiane Paris. Et voilà, j'en ai fait le tour.
Et alors chaque association va vous proposer une animation?
C'est ça. Donc ils auront une obligation de sensibiliser le public au parasport, au handicap. Autrement, ça sera ouvert. Voilà. Donc, mais ils ne seront pas obligés de faire tous les stands, mais on espère que le public sera nombreux pour continuer cette fête.
Parce qu'à Vitry, effectivement, nous avons des clubs sportifs, mais y a-t-il des clubs parasportifs?
Il y a un club qui s'est ouvert avec une section sportive qui est Myrmidon Squad, qui ne peut pas être là puisqu'ils sont engagés au championnat du monde. Donc ils ne seront pas sur la place, mais ils seront au forum des associations qui aura lieu le 14 septembre prochain, au gymnase des Indes et à la salle du manège.
Donc ça veut dire qu'on va se revoir très prochainement?
Et toujours avec grand plaisir.
On arrive sur la place d'Armes, il est quoi? Il va être
9h30? 9h30, 9h45, c'est ça. Ensuite, donc le convoi va partir, le dernier relayeur arrivera, éteindra la flamme et le convoi se dirigera doucement sur Châlons-Champagne. Et quand le convoi sera parti, donc il y aura l'ouverture de ce village avec le prise de parole de monsieur le maire, avec les ouvertures de l'association Majoval Girl des majorettes de Vitry-de-François, qui sera suivi par un flash mode sur la danse olympique vers 11h. 11h20, il y aura une animation de Vitry Danse. 11h40, une animation du tennis club Vitria.
On va jouer au tennis sur la place d'Armes?
Certainement, je le souhaite. Et vers midi, une animation musicale de la maison pour tous, avec les enfants qui seront sous un déguisement qui reflétera le sport olympique. Et ce village devrait se terminer entre 13h et 13h30, et la clôture se fera également par les majorettes des Majos Valdegar.
À quel moment entendrons-nous l'hymne olympique ?
Donc juste après le dernier relayeur, il y aura l'école de musique qui viendra jouer l'hymne olympique et aussi la Marseillaise. Je signale aussi que l'école de musique organise la veille, dans les jardins de l'hôtel de ville, un concert avec toutes les écoles de la Marne. Donc ça se passera aux alentours de 14h, 14h, 15h, dans les jardins de l'hôtel de ville, le samedi 29 juin.
Vous démarrez la manifestation par un lieu où le président du CIO est venu y mettre les pieds.
Tout à fait, donc ça devient, ce lieu-là devient historique et olympique.
Et tous ceux qui participent, ce sont tous des salariés de la ville ?
Non, il y aura des bénévoles, donc j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé, puisque c'est une véritable organisation, on est sur le sujet depuis des mois, donc avec un travail avec les services de l'État, mais aussi les services de la ville, la police municipale, les services techniques qui sont mobilisés pour que tout se passe bien, puisque la sécurisation du parcours est une de nos préoccupations, comme chacun le sait. Et grâce à eux, tout va bien se passer, j'en suis certain, et je remercie les bénévoles qui seront mobilisés sur tout le parcours, entre 40 et 50 bénévoles dont nous aurons besoin, et je sais qu'ils seront tous là.
Christian Gontier, merci. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au sport à la ville de Vitry-le-François.
Christian Gontier au micro RCF, cœur de champagne de Gérald Gaillet.
Le 18-19 sur RCF.
Et pour terminer cette émission, on va prendre des chemins dessins ardennais avec Marie-Ange Turquet qui s'entretient avec Jean-Pierre Benoît.
Marie-Ange Turquet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on entend parler de plus en plus des chemins dessins ardennais, chemin avec un S, vous allez nous en parler. Alors comment ça a démarré cette idée de créer des chemins de saints ardennais ?
Eh bien d'abord d'une constatation d'une petite équipe d'amis qui marchait sur le chemin d'Assise avec cette idée que dans notre société qui est très sécularisée, qui recherche beaucoup de confort, eh bien, il y a des tas de gens qui se lancent sur des chemins à pied, en toute simplicité, et qui font preuve d'une soif de spiritualité qui nous a vraiment frappés. Et donc on s'est dit, bah, pourquoi ne pas offrir cette possibilité de chemin de pèlerinage long dans les Ardennes. Voilà. Et cette idée un petit peu folle qui est apparue dans notre petit groupe, eh bien, on l'a mis tout de suite en œuvre. Et très vite, eh bien, on a eu une équipe de gens qui s'est formée autour de nous avec des compétences diverses. C'est devenu une vraie aventure. Et c'est plus seulement un projet, puisque déjà, le premier chemin est fait et nous allons le lancer le 27 juin. Donc voilà.
Ce chemin, comment est-il construit ce premier chemin ? Il va de où à où ? Et puis évidemment, si la distance est importante, ça ne se fait pas en une fois. C'est un peu comme le chemin de Compostelle.
Oui, c'est un chemin qui se fait à pied. Donc c'est un chemin de pèlerinage. Les gens le prennent comme ils veulent, quand ils veulent. Ils se construisent un petit peu leur façon de pèleriner à leur guise. Nous, ce qu'on offre, c'est un itinéraire qui a été reconnu. Ça a été une sacrée aventure parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, il a fallu faire des équipes de reconnaissance. On a trouvé des chemins qui étaient fermés, qui n'existaient plus. Mais là, on a eu vraiment de l'aide. On s'est divisé en petites équipes. Ça a été vraiment une aventure assez impressionnante.
Je vous interromps, Marie-Ange Turquet, parce que les auditeurs vont se dire, mais c'est où ce premier chemin ? Est-ce qu'il y a un point de départ ? Est-ce qu'il y a donc un point d'arrivée ? Est-ce qu'on revient au point d'arrivée ? Est-ce qu'il y a des étapes possibles ? Et est-ce qu'on peut avoir la carte de ces chemins pour que si dans l'été, les gens veulent y venir, eh bien qu'ils puissent le faire, en sachant quand même que ce sont des chemins qui sont praticables, c'est pas de l'alpinisme.
Voilà, ils ont tous été reconnus, donc, et pour avoir tous les renseignements, on a une appli qui a été développée par Odeguide, une start-up de Charleville, et sur cette appli, il y a tout. Il y a à la fois l'itinéraire, qui, avec votre avancée sur l'itinéraire, vous êtes géolocalisé, donc vous pouvez voir si vous vous trompez de chemin, donc il y a les itinéraires, il y a les accueils pèlerins, parce que vraiment notre ambition, c'est pas de faire un chemin, tout le monde a tout. Toute association de randonnée est capable de faire un chemin. Nous, vraiment, on insiste sur les accueils humains et les rencontres, et la richesse des rencontres qu'il peut y avoir sur ces chemins. Donc, on a tout au long du chemin des chrétiens et des non-chrétiens, d'ailleurs, qui acceptent d'ouvrir leur maison, d'accueillir les pèlerins, de leur faire visiter l'église, de leur présenter leur patrimoine. Donc voilà, il y a à la fois les itinéraires, les accueils pèlerins, les ravitaillements, et puis des notices de présentation du patrimoine religieux, des saints. Voilà, tout est sur une appli. On a un QR code et on tombe sur cette application. Les offices de tourisme ont commencé à nous proposer d'éventuellement diffuser une petite carte papier.
Ah, ça serait pas mal, ça.
Mais et c'est évident que c'est mieux d'avoir l'appli, oui. Parce qu'il y a tout dessus. Et que c'est aujourd'hui, la plupart des marcheurs ont quand même un téléphone mobile, et ça, donc c'est quand même très facile d'y accéder.
Alors, si quelqu'un veut démarrer, est-ce qu'il y a aujourd'hui un point de départ que vous nous conseillez, un lieu de rendez-vous qui permettrait bien de situer où se trouvent ces chemins, pour l'instant le premier chemin des Saints Ardennais?
Alors, en fait, nous avons construit un premier chemin qu'on appelait le chemin de Saint-Valfroid, qui fait 180 km. Donc voilà, il part de la gare de Poitéron, mais là, on a mis une coupure dans ce chemin pour faire deux petits chemins d'une semaine, en fait, avec le chemin de Saint-Roger-des-Landes qui part de Poitéron. On peut aussi le continuer en faisant le chemin de Saint-Valfroid qui fait 180 km. Et il y a un deuxième départ possible pour le petit chemin de Saint-Valfroid à Carignan pour les gens qui veulent un transport en commun. Mais après, les gens qui ont la carte, en fait, ils peuvent partir de là où ils veulent. C'est une boucle, donc dans une boucle, enfin c'est même deux boucles qui sont reliées, dans une boucle, on peut partir de là où on veut. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pratique, qui est très accessible,
oui,
et qu'on peut
faire
un peu à la carte.
À tous ceux qui, par exemple, pourraient dire « on va passer simplement une journée ». De marche, une journée de randonnée, partir le matin, venir l'après-midi. Ça, c'est possible en se branchant sur le chemin, en partant de Poitéron par exemple, ou en partant d'ailleurs. Mais encore faut-il qu'ils aient quand même bien l'itinéraire en tête, ou qu'ils ont bien l'appli quand même. Hein, qu'ils ont...
Voilà, oui, oui. Il faut bien avoir un support, et aujourd'hui, c'est vrai que l'appli, c'est une solution. Alors... qui permet de éviter un balisage qui est très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'entretiens, beaucoup d'autorisations, donc c'était plus possible.
Alors pourquoi chemin des saints ardennais? Quels sont ces saints ardennais?
Alors pourquoi des saints? Parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect du patrimoine, c'est vrai qu'on a un riche patrimoine religieux dans les Ardennes, on avait envie de le faire connaître et il suscite beaucoup d'intérêt de la part vraiment de tout le monde, des élus, des communes, enfin c'est vraiment quelque chose que les gens ont envie de faire connaître. Et puis il y a l'aspect un peu spirituel, on s'aperçoit que les saints dans l'histoire sont souvent des hommes et des femmes qui sont des novateurs, des initiateurs de changement, des porteurs d'espérance, et donc on a vraiment besoin de ça aujourd'hui pour nous inspirer dans notre situation ecclésiale, sociétale. Voilà, donc on se dit, se mettre sur la trace des saints, c'est aussi nous aider à trouver de nouveaux chemins, des nouvelles pousses dont on a vraiment besoin pour porter notre espérance.
Alors vous avez quelques exemples, vous avez énoncé bien sûr Saint-Valfroid, que tout le monde, tous nos auditeurs et puis les gens des Ardennes chrétiens nous connaissent. Mais il y a peut-être des saints moins connus que vous avez su retrouver.
Oh oui, oui, il y en a plein, et en fait, on n'a pas encore tout fait parce que notre ambition, en fait, c'est de susciter d'autres équipes dans les Ardennes qui créent d'autres boucles sur la trace d'autres saints. Donc nous, on a Saint-Valfroid, Saint-Roger-des-Landes et puis plein d'autres, mais on a vu qu'il y avait une Sainte-Gertrude dans le Ardennes Sud aussi qui pourrait faire une boucle très intéressante, Saint-Antoine de Haut-Butée, dans le Portien aussi, on a des associations patrimoniales qui nous ont contactés parce qu'ils ont dit « Ah ben nous aussi, on a des saints à faire connaître ». Donc voilà, il n'y a plus qu'à lancer des équipes dans d'autres coins des Ardennes, et nous, on leur apporte un petit peu le savoir-faire qu'on vient d'acquérir sans savoir au départ qu'on allait devoir faire tout ça.
Alors Marie-Ange Turquet, est-ce qu'il y a un lancement officiel? Est-ce que tel jour, à telle heure, il y a un regroupement où tout le monde pourrait venir pour dire « Voilà, ça y est, on inaugure en quelque sorte, si on peut dire ainsi, ces chemins des saints ardennais ».
Oui, on invite vraiment tout le monde à venir au lancement le 27 juin à 16h à Mouzon, à la salle Saint-Joseph. Donc on présentera les premiers chemins et puis le projet, et on essaiera de donner envie de faire d'autres boucles pour d'autres groupes. Et puis on peut aussi adhérer à l'association Chemin des Saints Ardennais. Il y a une adresse, maintenant une adresse spécifique, contact@chemin-des-saints-ardennais.com, tout se tient, donc contact@chemin-des-saints-ardennais.com. ou à mon adresse, pour ceux qui la connaissent. Voilà, vraiment que tout le monde n'hésite pas à venir au lancement ou à nous contacter.
On rappelle le rendez-vous, Marie-Ange Turquet, c'est le 27 juin, c'est à 16h, c'est à Mouzon, à la salle Saint-Joseph. Merci Marie-Ange Turquet.
Merci Marie-Ange Turquet, merci Jean-Pierre. On vous retrouvera bien évidemment demain avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui sera notre invité dans ce magazine régional et dès 7h du matin avec vous sur l'antenne de RCF France-Ardennes. L'occasion pour nous de remercier nos stagiaires qui nous ont accompagnés ce soir. Bonne soirée Inès.
Bonne soirée Alexis.
Reposez-vous bien parce que demain c'est vous qui prenez en main ce magazine régional. Médina, une très belle soirée.
Merci à vous aussi.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.